Rendez-vous Parisien, le magazine d'Aligre-FM pour vous faire sortir de chez vous.
Je marche dans tes rues qui me marchent.
Marc Lavoine, Paris, Rendez-vous Parisien, un magazine d'Aligre-FM pour vous faire sortir de chez vous. Une émission à la disposition des Parisiens, des Parisiennes et de tous ceux qui aiment Paris. Au micro, Victoria Mann et à la mise en onde, Enzo Di Meo.
Regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine.
Tout le monde connaît la Tour Eiffel. Tout le monde connaît le Grand Palais ou le Palais de Chaillot. Mais combien de Parisiens ou de touristes savent que ces monuments ont été construits pour un événement très particulier? L'exposition universelle 1889 pour la Tour Eiffel, l'exposition universelle de 1900 pour le Grand Palais et l'exposition pas tout à fait universelle de 1937 pour le Palais de Chaillot. Les grandes expositions universelles qui ont lieu à Paris entre 1855 et 1937 ont en effet fortement marqué notre paysage urbain. Et ce ne sont pas les seuls témoignages qui nous restent. Pour en savoir davantage sur ces grandes expositions, je vous conseille d'aller voir une exposition, Paris et ses expositions universelles, à la Conciergerie, dont les deux commissaires sont avec nous. Bonjour Isabelle Chalet.
Bonjour.
Bonjour. Un petit peu plus fort en face du micro. Et bonjour Sylvie Clavel.
Bonjour.
Voilà, qui est administratrice de la Conciergerie et aussi de la Sainte-Chapelle. Et je vous conseille aussi de lire un ouvrage intitulé « Sur les traces des expositions universelles » de Sylvain à Georges, Paris aux éditions Paris Gramme. Bonjour Sylvain à Georges.
Bonjour.
Voilà, très bien, vous êtes juste en face du micro. Voilà. Et si on a le temps, avant la fin de cette émission, mais on a rarement le temps, peut-être quelques brèves pour vous permettre de sortir de chez vous cette semaine. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de me faire savoir ce qui vous intéresse, un thème, un lieu, un événement. Mon adresse, Rendez-vous Parisien, Aligre-FM, 42 rue de Montreuil, 7511 Paris, www.aligre-fm.org, site sur lequel vous pouvez écouter l'émission en direct sur votre ordinateur, ce qui est quand même le progrès, on n'arrête pas ça. Et encore un autre progrès, http://rendez-vousparisien.fr.nf, site sur lequel vous pouvez podcaster, c'est-à-dire enregistrer cette émission. Pas de musique encore, je pensais que c'était la fin de notre générique, mais s'il est terminé, on démarre tout de suite, voilà. Alors je pense qu'on va parler de, j'ai parlé d'exposition universelle à Paris entre 1855-1937, j'ai lu dans le dossier, j'ai vu votre exposition, j'ai lu votre ouvrage, et il y a eu 8 grandes expositions à Paris sur un peu moins d'un siècle, ce qui en fait la ville qui a eu le plus d'expositions. Alors, toutes ne sont pas considérées comme des expositions universelles, mais justement, on va aller voir en détail la différence entre exposition universelle et une exposition autre, mais qui a lieu à Paris et qui a aussi drainé beaucoup de spectateurs, enfin de gens qui ont visité ces expositions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une exposition universelle? Quand cela a-t-il commencé? Alors, je vous pose la question à vous deux d'abord, Sylvie Clavel et vous, Isabelle Chalet. Donc, qu'est-ce qu'une exposition universelle? J'ai vu que ça avait commencé à Londres, en fait, la première exposition universelle en 1851. Hein, Reine Victoria, qui invite son grand ami, puisqu'il était quand même en exil en Angleterre, donc le Napoléon III, qui ne, je ne sais plus s'il est, il est Napoléon III déjà, ou peut-être pas très loin en tout cas. Alors elle l'invite et il est estomaqué parce que c'est quand même quelque chose de fabuleux.
Oui, alors les expositions universelles sont avant tout les dignes héritières des expositions nationales qui ont pris place en France au XVIIIe, au début du XIXe et qui elles-mêmes succèdent aux grandes foires médiévales. Une exposition universelle, c'est une exposition en définitive qui touche à tous les secteurs de l'activité humaine.
Mais une
Donc la première a lieu effectivement à Londres en 1851.
Elle est annoncée comme une exposition universelle.
Oui. Et effectivement, lorsque Napoléon la visite, il décide de relever le défi anglais et d'en organiser une à Paris en 1855. Et après, vont se succéder tous les 11-12 ans, puisqu'il y en a une en 1855, 1867, 1878, 1889 et 1900. Les expositions qui suivent ne sont pas forcément considérées totalement comme universelles. Celle de 25 est spécialisée sur les arts décoratifs. Oui. L'exposition de 31 est clairement une exposition coloniale. Oui. Celle de 1937 est une exposition presque universelle.
Alors, donc, ça a attiré beaucoup de monde. On passe de combien de 5 millions de visiteurs à 50 millions maintenant.
50 millions de visiteurs en 1900, oui.
Qui était un succès.
Oui, c'est phénoménal. La superficie, c'est 10 fois la superficie de l'exposition de 1855. Donc, effectivement, ça a pris une dimension assez incroyable.
Alors, il se passe, c'est l'ancêtre en fait, c'est la foire de Paris quasiment. Enfin, c'est la foire de Paris et c'est pas la foire de Paris. Mais c'est-à-dire que des exposants viennent montrer leurs produits. Il y a de l'innovation technologique, il y a de l'architecture qui est créée, donc on va en reparler effectivement, puisqu'il faut bien mettre en valeur tous ces artisans, ces commerçants, enfin tous les industriels qui viennent. On transforme la ville et on fait venir, et c'est aussi la fête.
Oui, il y a deux spécificités qui sont introduites par la France en 1855. C'est le Salon des Beaux-Arts, qui n'existait pas à l'exposition universelle anglaise, et une section d'économie sociale pour permettre de présenter en fait des produits qui soient à la portée de toutes les bourses et qui puissent convenir à l'ensemble du public qui va venir visiter l'exposition.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on visite une exposition comme ça? Vous aussi, Sylvie Clavel, alors, vous avez participé à cette...
C'était une idée d'Isabelle Chalet-Bayache et qu'elle a conduite admirablement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup enthousiasmée et que je l'ai suivie. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette exposition qu'on montre à la conciergerie, c'est qu'on a choisi un parti très rigoureux, qui était de montrer l'architecture. Parce que, vous savez, on peut aborder
Justement, il y a tellement
par mille biais, et effectivement l'économie sociale, mais également l'innovation technique, mais également les arts. Et nous, on a pris un parti très rigoureux. Ça a d'ailleurs été pas commode de s'y tenir.
Il y a énormément d'informations, j'ai vu dans les archives sur ces expositions universelles.
C'est
foisonnant, c'est-à-dire les dossiers qui ont
énorme.
Été présentés, les projets d'architecture, absolument tout.
Énorme. Alors évidemment, c'était très frustrant d'ailleurs parce qu'on a dû se priver de présenter des originaux qui avaient une véritable qualité esthétique. Je pense au projet d'architecture rehaussé en couleur. Mais on a pris le parti de ne présenter que des édifices qui ont été véritablement construits, parce qu'il y a eu beaucoup de projets retoqués qui étaient tout à fait visionnaires, des projets construits et à partir de clichés photographiques d'époque. Et on a pris le parti de ne pas présenter les clichés originaux parce que ça nous a permis de travailler l'échelle de la photo. Parce que vous savez, rien de plus lassant pour le visiteur que de regarder 200 petites photos, aussi intéressantes soient-elles. Donc là, l'excellente idée d'Isabelle, ça a été de travailler à partir des clichés originaux, mais de ne présenter que des tirages permettant d'avoir parfois des détails très agrandis en fonction de la qualité de l'original. Donc, on s'est tenu à une exposition documentaire.
Oui, alors les photos ont été prises comment, par qui et est-ce qu'on s'en servait à l'époque ou vous êtes les premières à vous en servir?
Ah non, on s'en servait à l'époque. Elles proviennent en grande partie de deux fonds, essentiellement donc les archives nationales en ce qui me concerne à la conciergerie pour 1855, 1867 et 1878. Toute la section de 1867 provient des albums du parc, qui était donc c'est un énorme album photographique qui avait été fait à l'attention de l'empereur. Qui est magnifique, qui pèse 20 kilos, qui est donc aux archives nationales, dont on s'est servi. Et à partir de 1889, on a surtout utilisé les fonds photographiques de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui a des fonds assez exceptionnels sur la question. On a également emprunté au musée Albert Kahn quelques autochromes.
Musée Albert Kahn, on a vu déjà dans différentes expositions qu'on a visitées. Oui.
Voilà, qui ont de magnifiques autochromes. Et il y a quelques photos aussi qui proviennent de fonds parisiens via la Parisienne de photographie.
Alors, vous avez également des films. J'ai vu que vous aviez des films.
Oui.
Et même des films en 3D. Alors, on n'en faisait pas à l'époque.
Non, alors en 1900, on présente les premiers films des Frères Lumière. Ça permet au public de se rendre compte de l'ambiance.
Qui viennent juste d'inventer le cinéma.
Voilà, ils viennent juste d'inventer le cinéma, une dizaine d'années. On peut découvrir le trottoir roulant.
Oui, oui, ça c'est le. On le voit tout le temps, c'est très spectaculaire. Voilà, c'est dommage qu'on l'ait supprimé.
Hein, oui, c'est un peu dommage. On voit aussi toute la partie de reconstitution de la Suisse.
Le chalet suisse qui est
le
village suisse, voilà, où il y a des montagnes reconstituées,
des montagnes reconstituées,
voilà, des étables, des troupeaux de vaches,
oui, on pouvait traire les vaches, oui.
Voilà, on voit les premières vues depuis la Tour Eiffel aussi filmées. En 1925, c'est donc un film qui nous a été prêté également par le musée Albert Kahn et qui est très intéressant parce qu'on voit en fait tous les travaux de destruction à l'issue de l'exposition universelle. Et on voit que ça dure pendant des mois et des mois, voire presque deux années, où ils sont en train de démonter tous les édifices qu'ils ont
mis longtemps. Ils avaient monté ça en combien de temps, finalement, pour chacune des expos? Parce que quand on parlait 1851 à Londres et 55 à Paris, le temps qu'on fasse les projets, qu'on décide,
ça allait relativement vite. Hein, les travaux duraient en moyenne deux années.
Ben, On a fait le métro, par exemple, très vite, la ligne numéro 1.
Oui, de Vincennes-Maillot, oui.
Ça a été fait, maintenant, pour faire une ligne de métro. J'aimerais bien qu'on nous double à 13, mais je sais que ça va prendre au moins 10 ans, sinon 15 ans. Hein, donc, le sous-sol parisien n'est plus le même, c'est vrai. Mais...
Il y avait un élan absolument extraordinaire. On n'imagine pas des travaux aussi titanesques aujourd'hui dans la ville pour simplement vanter l'innovation technique ou la performance économique. Y compris international. C'était absolument délirant. Quand on voit ça aujourd'hui, on se dit qu'il y avait une foi dans le progrès et dans le meilleur du futur qui est loin de nos mentalités actuelles.
Oui, absolument. Parce qu'il y a eu d'autres expositions universelles qui ont lieu il y a 10 ans, il y a 20 ans. Enfin, je pense à Montréal. Je sais qu'on a fait... ça a eu beaucoup de succès à Bruxelles. C'était combien il y a 40 ans, peut-être, à Bruxelles.
Oui, 58, je crois.
Il me semble, oui. Donc, ça fait un certain temps. À Paris, on a failli en avoir une récemment. Et puis, ça ne s'est pas fait. Enfin, c'était à Saint-Denis. Mais c'est dommage.
Je me souviens avoir assisté à une conférence. On parle de 2020.
On parle de 2020. Ah oui. Est-ce qu'il y aura ce même élan? Parce que maintenant, le progrès, on a le sentiment qu'il est... on l'a, ce progrès, il est à notre portée.
Oui, je crois que désormais, les enjeux sont extrêmement différents pour les expositions universelles. Ils traitent plutôt de tous les gros problèmes de société actuels, qui sont les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, enfin, tous les grands questionnements mondiaux.
Mmh. Ouais. Écoutez, on va faire la première pause musicale. sur Aligre FM 93.1, un rendez-vous parisien. Nous parlons aujourd'hui des expositions universelles qui ont lieu à Paris entre 1855 et 1937. Enfin, ce n'était pas une exposition universelle, mais c'était une grande expo. Et la musique qui était choisie, elle était choisie cette fois-ci par Sylvie Clavel, Debussy, donc Morning in Festival Day. Alors Debussy, exposition 1900 peut-être ? Non, à peu près ? Je dis à peu près. Hein,
parce oui, que... enfin, en tout
et pourquoi,
cas,
il a dit... Pourquoi Debussy, alors ?
Parce qu'il a dit lui-même avoir été influencé par sa découverte de la musique asiatique, qu'il a découverte à l'occasion des expositions universelles. Donc, c'est d'ailleurs une musique qui correspond à cette période.
Oui, c'est une musique très gaie, une musique...
Festive.
Festive, effectivement, Festival Day. Et c'était la fête à ce moment-là, effectivement.
Combien
de 50 millions de visiteurs pour cette exposition 1900, alors que la France ne comptait que 40 millions d'habitants. Alors, ça veut dire qu'on a traîné les vieillards et les enfants. Non, ça
non,
veut dire
pas
aussi...
tout à fait. Ça veut dire...
beaucoup d'étrangers, quand même.
ça veut dire qu'il y avait des cartes d'abonnement, que les gens venaient plusieurs fois. Et
oui.
Les expositions, elles ont à peu près toutes duré 6 mois. Donc, il y avait toutes sortes de tarifs avantageux. On pouvait venir pour moitié prix le dimanche, par exemple.
Ah oui ?
Il y avait des abonnements à la semaine, il y avait des abonnements pour les 6 mois. Et donc,
on y allait en famille ?
Bien sûr, les gens y allaient en famille. Il y a eu beaucoup de billets combinés aussi, c'était amusant. Ils proposaient toutes sortes de billets combinés avec le train. Alors on pouvait avoir 23 kilos de bagages, un billet de train et le billet d'entrée.
Ah
et
oui.
Alors à partir de 89-1900, ils ont beaucoup vendu ça dans les mairies. Mais dans les mairies de toute la France, on pouvait aller à sa mairie au fin fond des Pyrénées, acheter déjà son billet de train.
Pour 1889.
Pour les expositions d'après, en fait. Ils ont commencé à mettre ça en 89 et en 1900.
Oui.
Mais il y avait déjà en 78 des billets combinés, des abonnements. Enfin, à toutes les expos, il y a eu, pas comme aujourd'hui, un billet d'entrée avec tarifs familles nombreuses et chômeurs. Mais il y avait 20 tarifs différents pour 20...
Oui, tout le monde pouvait y aller.
Tout le monde pouvait y aller.
Tout le monde y trouvait son compte.
Oui, et puis en 1900, il y a 120 hectares. Donc ça nécessite quand même plusieurs visites. On ne peut pas voir, visiter tout le Quai des Nations, le Champ de Mars, le Palais de Chaillot, enfin du Trocadéro à l'époque, l'Esplanade des Invalides. Il fallait venir plusieurs fois. En plus, il y avait beaucoup d'animations.
Il y avait donc la reconstitution du
Vieux
pendant
Paris
mois, en fait,
avec des essais animés, de Robida. Donc beaucoup d'animations aussi pour le public.
Donc des grandes expos. Alors chacune, est-ce qu'elles avaient chacune un thème ? Au départ 1855 par exemple. Est-ce que c'était ou c'était juste on va montrer aux Anglais ce qu'on est capable de faire ?
Il y a un peu de ça quand même, il y a un peu de ça quand même. Il y a toujours un thème, je ne me rappelle plus du thème de 1855, mais c'est le...
Non, c'est l'industrie, beaux-arts, agriculture, enfin c'est vraiment le thème général des expositions universelles.
Agriculture. Alors, et là, on commence à construire pour ces expositions. Donc, il nous reste des choses plus ou moins visibles et plus ou moins nombreuses en fonction des expos. Alors, on a construit donc 1855. J'ai vu qu'il nous restait.
Ils ont construit un grand palais de l'industrie qui était en bas des Champs-Élysées, vers la Concorde, quand on monte les Champs-Élysées sur le trottoir de gauche. Et il a été détruit. Il n'a été détruit que pour 1900 pour laisser la place au petit palais. C'est-à-dire qu'il y avait le bout du bâtiment, empiété sur l'espace du petit palais. Donc il est resté pendant 45 ans, mais il a servi que pendant les 6 mois pour cette expo. Et quand il a fallu le détruire, à l'intérieur, il y avait une caserne de pompiers, les réserves de l'Opéra de Paris.
Il y avait
un service de concierge, il y avait le nettoiement de la ville de Paris. Il y avait plein de choses et ils étaient bien embêtés parce qu'il fallait replacer tout ce monde-là dans Paris. Tout le monde avait trouvé sa petite place. Je ne sais pas comment ils avaient trouvé leur place. Et en 1855, ils restent à la ville de Saint-Cloud, en bas du parc de Saint-Cloud, une statue d'Elias Robert. Robert, c'est son nom de famille. Et c'était le porche d'entrée. C'était la statue qui dominait le bâtiment de l'industrie. Et elle a été démontée en 1900 coupé en tronçons, déplacé en chariot à cheval, à bœuf peut-être, ou avec des ânes. Et elle a été replacée en bas du parc. Et quand on est passager en voiture et qu'on passe le long de la Seine, le long du parc, on la voit sur l'herbe, sur le côté droit. Mais si on est conducteur, on n'a pas le temps de la voir. Parce que
D'accord. Et ce n'est pas recommandé non plus. Voilà. Alors, moi, je trouve qu'il reste quand même une chose très emblématique. C'est le zouave du pont de l'Alma.
Ah oui, aussi.
Alors, bah oui, le zouave, c'est l'Empire.
Exactement, le pont de l'Alma, on a construit un pont en 1855, le pont de l'Alma actuel est moderne, on l'a mis à bas et on a refait un tablier en métal. Et on a gardé une des quatre statues, le zouave, et une autre statue qui est le chasseur
se qui trouve, quand on vient parler à Cat.
Voilà, quand on arrive vers Vincennes, au niveau du bois de Vincennes, vers Paris, on voit une statue en haut et il était sur un autre pilier.
Oui, mais il n'est pas à côté des zouaves. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est.
Ben non.
Par contre, le zouave, même si on ne sait plus pourquoi il y a un zouave, on sait que c'est l'indicateur de la crue de la Seine.
Voilà.
Quand on voit sa tête, c'est que...
C'est qu'on est en 1910.
Exactement, plein de photos de 1910.
Oui, absolument. Et là, en ce moment, on voit quoi? Parce que la Seine est assez haute.
Je n'ai pas été voir. Non, je crois pas. Parce qu'il est sur un piédestal et je ne suis pas sûr qu'il soit à la même hauteur.
Ils l'ont remis à la même hauteur. Oui, justement. C'est pour les indicateurs restent les mêmes.
Ils l'ont remis. Bon, enfin, il ne reste plus que le zouave de ce pont de 1855.
Voilà. Et puis, il y a un autre bâtiment qui est le théâtre du Rond-Point, qui était peut-être théâtre, mais moi, je l'ai connu patinoire.
Voilà, ça a été une
patinoire. J'étais très jeune, quand même.
Ça est resté jusque dans les années 80, je crois, une patinoire. Alors, en fait, c'est un faux ami, la rotonde de 1855, parce qu'en fait, elle date de 56. Il avait fallu qu'on la détruise. Daviau avait fait une rotonde, il a fallu qu'on la détruise pour construire ce palais de l'industrie. Et on lui a promis qu'il pourrait la reconstruire. Donc, il l'a reconstruite quelques mètres à côté. Donc, elle n'était pas présente. Les visiteurs de 55 ne l'ont pas vue.
Non, ne l'ont pas vue comme ça.
Mais elle a été reconstruite juste après.
Oui, parce qu'après, ça fait très Second Empire.
Voilà. Et puis, si on passe derrière l'entrée, on voit encore les panoramas, puisque c'était un panorama. Mm-hmm. Comme le passage des panoramas à Paris, c'est une grande toile peinte, circulaire, qui est grande comme le bâtiment à l'intérieur. Et on avait un billet d'entrée et on pouvait découvrir toutes sortes de scènes de guerre à 360 degrés. Et il y a encore gravé panorama sur le fronton, mais le fronton qui donne côté Petit Palais aussi.
Voilà, alors là, 55, c'était l'Empire. 67 aussi, mais il y a des chalets, il y a des petits théâtres. Enfin, c'est pas très spectaculaire. Par contre, et en 1878, donc ça, c'est la Troisième République. Il nous reste quand même quelque chose, pas beaucoup. Les fontaines Wallace, j'ai l'impression qu'elles ont disparu. Il en reste
reste de temps en temps. Je ne sais pas si c'est des fontaines de 1855, mais voilà, c'était un...
C'était le progrès, on pouvait boire partout dans Paris, c'était ça l'idée.
Voilà, c'était la distribution d'eau gratuite et c'était un Anglais très francophile. Et il a offert les fontaines Wallace et je pense qu'il y en a encore à Montmartre, il y en a encore de temps en temps dans les squares.
Oui,
sur
dans
le
les
côté,
squares.
Oui, il y en a.
Oui, oui.
Un petit peu.
Et il y avait un gobelet attaché parce que c'est difficile.
Je crois, oui, il y a des petits anneaux en haut des cariatides et il y avait des gobelets sur une chaînette en métal à un moment. Je ne sais pas s'ils sont restés longtemps à Paris, mais pour l'expo, il avait fait un modèle avec les anneaux et les anneaux, ils sont toujours.
Oui, alors des petits pavillons sont restés aussi un petit peu gauche et à droite. Mais aussi, ce qui est spectaculaire, c'est la statue de Charlemagne qui est devant Notre-Dame.
Oui, elle était dans le pavillon des Beaux-Arts de 1878 et elle a été... Elle a été remise, replacée sur le parvis de Notre-Dame en bord de Seine. On voit Charlemagne et ses leudes avec Roncevaux qui tient son cornet.
Enfin, Roland, vous voulez.
Oui, Roland, excusez-moi. Roland de Roncevaux.
Oui.
Qui tient sa corne. Et il est exposé en 1878, mais on pourrait aller dans n'importe quel musée parisien, au Louvre et à Orsay, et passer des heures. À retrouver toutes les statues qui ont été exposées.
Oui. Alors, les expositions suivantes, donc 1889, c'est le plus beau souvenir qui nous est laissé par une exposition universelle, n'est-ce pas ? La Tour Eiffel.
La Tour Eiffel, l'avènement de l'architecture métallique que démontrait la Tour Eiffel et la prouesse extraordinaire, de telle sorte que finalement, on l'a gardée.
Et pourtant, elle était décriée. Elle a été très décriée au moment où on la construisait. Oui. C'est que beaucoup d'artistes faisaient des pétitions.
Oui, mais c'est une pure démonstration de savoir-faire, mais en même temps, ça reste un monument exceptionnel. C'est la tour de 300 mètres, ça reste la tour la plus élevée au monde pendant près de 40 ans, parce que je crois qu'elle est détrônée uniquement dans les années 30 à New York avec le Chrysler Building, donc elle reste très longtemps. La tour la plus haute, il y a également la galerie des machines qui est assez étonnante avec la portée de voûte qui est de 110 mètres alors qu'elle était de 48 mètres en 1855. Donc en quelques années, les techniciens, les ingénieurs ont fait des progrès assez incroyables.
Oui, alors j'ai vu aussi qu'on avait des cités d'artistes, des théâtres bien sûr, des ateliers d'artistes, la cité des Fusains que je n'ai jamais pu visiter parce que c'est fermé au public.
Souvent, oui, souvent. Maintenant, on ne peut plus rentrer. Non. Alors, en fait, sur cette, j'ai retrouvé dans ce petit livre sur les vestiges des expositions universelles chez Parigram, j'ai retrouvé pas mal de pavillons et de bouts de pavillons. C'est simplement que ce sont des foires commerciales, les expositions universelles, et à la fin. Ça coûte moins cher de revendre le bâtiment que de le démonter, de l'entreposer quelque part ou de le détruire. Donc en fait, les matériaux étaient réutilisés. Alors soit ils étaient réutilisés dans leur totalité, c'est-à-dire qu'on revendait un chalet suisse, on revendait un chalet norvégien ou russe. Pourquoi les chalets? Parce qu'ils sont fabriqués en bois et qu'ils sont assemblés à la main. Donc c'était facile de les démonter, de numéroter à la craie les pièces, alors qu'il y a des pièces métalliques qui étaient un petit peu plus compliquées à dérifter. Et puis, il y avait des bâtiments. En 1900, on rentrait à la Concorde et on pouvait sortir aux Invalides, à pied, à l'intérieur. On pouvait rentrer à l'exposition de la Concorde. Oui. À la place de la Concorde, il y avait une entrée.
L'exposition était où à ce moment-là?
En 1900, elle était à la fois au Trocadéro, au Champ de Mars, sur tous les bords de Seine, jusqu'à l'esplanade des Invalides. Et effectivement, il y avait une énorme porte monumentale sur la place de la Concorde, qui servait en fait de guichet. Il y avait 32 guichets répartis.
La porte de la Concorde, d'ailleurs.
Voilà, surmontée d'une statue de Binet, la parisienne.
Oui. Donc c'était immense, il y avait du matériau, il fallait l'évacuer ce matériau, c'était plus facile de le réutiliser à l'intérieur de Paris.
C'est pour ça que vous disiez, on mettait près de 2 ans pour démolir tout
les bâtiments. Ça prenait du temps, et puis les cités d'artistes ont beaucoup été construites dans Paris avec des matériaux. Alors ce n'est pas un pavillon qui a été démonté et remonté comme une cité d'artistes, mais ils ont utilisé les poutres du pavillon des jouets ou du pavillon de la nourriture ou du pavillon anglais.
Donc de la réutilisation, mais c'est tout à fait normal ça dans chacune des expos, parce qu'il y a des bâtiments qui sont restés, je pense aux bâtiments, enfin pour 1900 quand même il nous reste la ruche par exemple. Je sais que ça servait à autre chose et que ça a été racheté et déplacé.
Tout le monde dit que la ruche était un pavillon des vins, et en fait c'est que le toit, qui était un très joli toit en fer forgé, qui était le pavillon des vins de Médoc. Mais ça, j'ai trouvé l'info qu'en comparant les photos, à force de bouquiner, de trouver. Et donc la ruche, ces différents éléments de l'exposition, et le toit en lui-même, qui est un toit en tulipe. Alors, inversé, c'est comme une tulipe posée à l'envers. Oui. C'était le pavillon des
Trois-Médocs. C'est après qu'on a refait le bâtiment.
On
l'a replacé dans
on
le.
On l'a replacé rue de Dantzig, dans le 15e arrondissement, pas très loin de la rue des Morillons. Et non, pas de la rue des Morillons, à côté des objets trouvés.
Oui, c'est ça.
C'est la rue des Morillons. Pour en faire une cité d'artistes.
Oui, enfin, les artistes le sont appropriés après. Après, il y a eu des menaces de démolition. Finalement, ça semble être sauvé quand même.
On verra. Normalement.
On verra. Alors, 1900, il nous reste quand même le pont, même s'il a été refait. C'est le pont Alexandre III, qui est un exploit technique et qu'on ne voit pas parce qu'on voit que le côté décoratif, en fait, ce pont Alexandre III.
Oui, de la même façon.
On était alliés avec les Russes à ce moment-là.
C'est encore une association d'ingénieurs et d'architectes. Et effectivement, la prouesse architecturale est masquée partout l'univers décoratif.
On voit donc des renommées, on voit des statues dorées, et on ne voit pas donc tout cet exploit qui est le pont.
C'est un tablier d'une seule pièce, en fait.
D'une pièce, et qui fait qu'on... Je ne sais pas, enfin, c'était un exploit à l'époque. Maintenant, on fait quand même beaucoup mieux, mais le progrès quand même va de l'avant.
Il permet surtout une très belle perspective depuis les Invalides jusqu'au Grand et au Petit Palais.
Voilà. Alors, le Grand Palais, donc ça, c'est ce qui nous reste aussi.
Voilà, 1900. Les grands bâtiments qui nous restent, c'était des bâtiments qui étaient quand même prévus pour être utilisés après. C'est des bâtiments qui étaient quand même prévus pour durer. Et le Grand Palais devait être un bâtiment d'exposition pour la ville de Paris. Donc, Grand Palais, Petit Palais. Enfin, je parle de l'ensemble, parce qu'il y en a un qui appartient maintenant.
Petit Palais, ville de Paris. Et l'autre, c'est au contraire.
Voilà, mais ils n'avaient pas prévu de le détruire après. Ça,
ils n'avaient pas prévu, et finalement, on a refait des travaux qu'il y a 2-3 ans seulement.
Oui, c'est magnifique.
Donc, ça a duré vraiment très, très longtemps.
C'était solide. Hein.
C'était solide. Il y a un boulon qui est tombé et on a décidé de faire des travaux, je crois. Ouais. C'était à ce moment-là. Donc, on peut aller visiter en ce moment. Il y a une exposition. Je ne sais plus de qui, mais je sais qu'il y a une exposition au Grand Palais. Quant au Petit Palais, on peut toujours y aller puisque c'est un musée.
Il y a Nold et Picasso.
C'est ?
Il y a Nold et Picasso.
Oui, mais dans les bâtiments derrière.
Sous la verrière, il y a 6 milliards d'autres.
Oui, c'est ça, 6 milliards d'autres. Pour moi, le Grand Palais, c'est plutôt la verrière. Enfin, même si c'est l'ensemble des bâtiments. L'ensemble. Oui, c'est tout, mais en même temps, le Palais de la Découverte, on considère qu'il vient après. Donc, tous ces bâtiments se mélangent.
Le Palais de la Découverte, c'est une partie du Grand Palais qui a été dédiée en 1937 au Palais de la Découverte, qui était une exposition qui était prévue permanente sur les sciences.
Oui, et qui était aussi menacée. Un certain nombre de musées sont menacés.
À force de ne pas trop entretenir, c'est des structures énormes à entretenir.
Mais vous parliez de pavillons. Je crois qu'il faut vraiment parler des pavillons qui sont ceux de tous les pays qui ont été construits.
Oui, il y avait cette rue des Nations.
Qui a évolué d'ailleurs, puisqu'elle était présente dans plusieurs expositions. C'était vraiment la montée des identités nationales. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous conduit jusqu'en 1937. Où on a cette photo incroyable où se font face le pavillon de la Russie soviétique et le pavillon allemand nazi. Mais je crois que Isabelle pourrait parler de la rue des Nations.
Oui, la rue des Nations, on l'a vue avant 1900.
En fait, elle apparaît dès 1878. Elle est centrale. Ils ont construit un énorme bâtiment qui prend l'ensemble du Champ de Mars. Et à l'intérieur même, il y a une rue des Nations, mais qui n'est formée à cette époque-là que de façades. À partir de 1889, chaque pays construit son propre pavillon. Enfin, c'est-à-dire que les expositions prennent une telle ampleur qu'il n'y a plus moyen d'avoir un seul bâtiment pour accueillir l'ensemble de l'exposition. Et chaque pays construit donc son propre pavillon. Mmh. Et cette dynamique est vraiment très en place en 1900 avec le Quai des Nations. Et c'est le film auquel vous faisiez référence tout à l'heure, où on a à la Conciergerie donc un film. C'est une reconstitution 3D de ce Quai des Nations.
Oui, alors comment ça a été fait ce film ? Alors, c'est récent. En fait,
hein. Oui, c'est très récent. C'est un passionné à la fois d'images 3D et de l'expo de 1900 qui a commencé à faire la reconstitution de l'exposition de 1900. Il a commencé par le Quai des Nations. Et donc, à partir de tout un tas de documents, il a réussi à reproduire les pavillons tels qu'ils se présentaient au public. Et ça permet d'avoir une vision, en volume et surtout en couleur, de retrouver en fait la polychromie qu'on ne trouve pas évidemment dans les photographies d'époque.
Mm-hmm. Et sur... On peut retrouver d'ailleurs sur son site internet, il faut taper le MOG, LEMOG.
Oui.
Et on trouve assez facilement ces animations, ces images en 3D
sur
Internet.
On peut les retrouver.
Oui.
Il a commencé L-E-M-O-G. À travailler aussi sur la reconstitution du Vieux Paris de Robida. Enfin, son but, c'est vraiment de reconstituer l'ensemble de l'exposition universelle de 1900. Mais ça prend un temps monstrueux, donc c'est à longue échéance.
On va faire une deuxième pause.
Alors, et ce Paris-là, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille ?
À Paris, j'ai vu au moins 50 canadiens.
Quel exagérateur, alors.
Un peu partout, tout le monde dit que la plus belle. belles villes du monde et sans doute Paris. Ça ne me vexe pas, au contraire je ris. J'instaure le débat et je vais être précis. Y'a pas d'enfer, y'a pas de paradis. Moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis. Dans la compétition au titre par catégorie. Si Paris est la plus belle, Marseille est la plus jolie. Yeah. La Canebière, le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde. Les réformés, le cours Julien, la Plaine et la gare Saint-Charles. La rue Loubon, Palais Longchamp, 5 avenue, boulevard Chaves. Rue de Lyon, la place d'Aix, le cours Lyoto et Castellane.
C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou.
Bleu et blanc, soleil colour, le ciel est grand, ok calo, rire d'enfant, la nuit au jour, Bruno son, libère les amours.
Est-ce ma suite, ma donne, ma capitale? Est-ce ma nation, ma douce, ma générale? Est-ce mon île, mon bateau, mon récalé? Oh mon bel jardin, des délices, des délices.
Spéciale dédicace à tous les amuseurs, à ceux qui font danser les Marseillais. Tous les ragamuffins, les rockers, les rappeurs, et à tout ce que j'allais oublier. J'écris une épitaphe, encore deux ou trois taffes, j'enterre la tristesse et le stress. Je profite du rythme, j'assure l'intérim, j'évacue la pression, je me redresse. Fais bouger tes pieds, tes genoux, tes...
Voilà, sur Aligre FM 93.1, dans Rendez-vous parisien, nous parlons aujourd'hui des grandes expositions universelles qui ont lieu à Paris entre 1855 et 1937. Et la musique que vous pouvez entendre derrière moi, Sourdine, est une musique choisie par un de mes invités, Sylvain Georges. Donc Massilia, attendez, Massilia, Marseille, alors qu'on est à Paris.
C'est parce que je suis marseillais.
Ah, d'accord. Ok, bon.
Dédicace à tous les copains.
Dédicace à tous les copains, d'accord. Je vais être obligé de podcaster l'émission. Hein. Non. Alors, on continue quand même sur ces expositions, en rappelant qu'il y avait les grandes expositions universelles, donc jusqu'en 1900. Et puis après, il y a eu la guerre, il y a eu un certain nombre de choses qui sont passées en France. Et puis trois grandes expositions ont suivi, qui ont quand même attiré énormément de visiteurs. Celle de 1925, pour laquelle il ne reste plus rien, puisque c'était plutôt beaux-arts, art déco. Enfin, il y a des artistes qui ont émergé à ce moment-là.
Oui, ça a permis aux architectes et aux grands décorateurs français de pouvoir essaimer leur savoir-faire un peu partout dans le monde.
Mmh. Donc,
il y avait des pavillons de Le Corbusier, il y avait des pavillons de tous les...
Corbusier, qui commence.
Enfin, tous les grands architectes.
Voilà, qui commençait. Voilà, et d'autres grands architectes. Ouais. Ensuite... Exposition coloniale, alors 1931, là on en parle encore de temps en temps parce que c'était quand même très colonial. Hein, donc c'était, on a fait venir des indigènes qu'on a montré dans...
Oui, mais c'était déjà le cas sur les expositions précédentes, la rue du Caire en 1889,
les
années...
Oui, mais puis c'était l'époque qui était colonialiste. Enfin, il en reste le palais de la Porte Dorée.
Le palais de la Porte Dorée, et puis le pavillon du Congo, qui est aujourd'hui dans le bois de Vincennes, qui est aujourd'hui la pagode, la grande pagode de Paris, où sont toutes les manifestations hindoues.
Donc
il en reste quelque chose.
Et la dernière exposition qui a eu lieu juste avant la guerre, c'est celle de 1937. Là, vous parliez des pavillons soviétiques et allemands, l'Allemagne nazie à l'époque. Mais il n'y avait pas. Enfin, il nous a resté beaucoup de choses là. Il nous est resté le palais de Chaillot, le palais de Tokyo. Ça a transformé quand même la physionomie de Paris, tout ça.
Oui, cet ensemble, il a été reconstruit sur l'ancien palais de Chaillot. Donc en fait, c'est assez joli quand on se promène à l'intérieur de l'actuel palais. De 1937, on voit que à l'intérieur c'est du fer forgé, du fer, des poutres en fer, et c'est le 1878, ils ont enlevé simplement la coquille extérieure et ils ont utilisé l'infrastructure et ils ont reconstruit par-dessus. Donc c'est 78 et 1937 oui. en même temps.
Oui. En fait, il y avait une énorme salle de spectacle enfin, qui faisait 5000, mmh. qui pouvait recevoir jusqu'à 5000 mmh. personnes à l'époque, qui a été détruite pour faire place au parvis.
Oui, alors ce qui est joli, c'est du parvis, c'est voir la Tour Eiffel, et de la Tour Eiffel, voir le palais de Chaillot, mmh. quand même, ça c'est joli, hein. Ça fait des beaux points de vue.
Ah ben, la Tour Eiffel, on a un point de vue...
Surtout Paris, mais, oui, non, mais même sur le palais
de Chaillot. D'ailleurs, les deux axes de photographie qu'on a utilisés dans l'exposition et dont parlait Sylvie Clavel, où on voit émerger les deux pavillons colossaux de l'Allemagne nazie et de l'URSS, mmh. On les voit aussi bien encadrant la Tour Eiffel qu'encadrant le palais de Chaillot et sa colonne de la paix.
Mmh. Alors maintenant, il n'y a plus d'exposition universelle à Paris. Vous parliez, Sylvie Clavel, peut-être 1920, on commence à en parler. Il y a un bureau international des expositions. Il y a un bureau des expositions. Comment ça fonctionne? Une ville pose sa candidature et elle est acceptée, elle fait un certain nombre de projets.
Il y a un comité composé de délégués et représentants en chaque pays, donc c'est une assemblée énorme. Et il y a un bureau qui gère cet ensemble et gère en fait la labellisation Exposition universelle qui se tient à Paris. Mmh. Et donc la prochaine exposition universelle est à Shanghai.
Oui, c'est en quelle année?
C'est 2010. Là, c'est...
Ah oui, l'année prochaine?
Oui. Et on aura ensuite Milan.
Shanghai est une ville tellement gigantesque.
Je sais pas Milan, où c'est 2015. Et Milan, c'est 2015. Oui, c'est vrai. Et Shanghai peut être très démonstrative pour une exposition universelle, puisque dans un pays émergent, il y a un développement technologique absolument invraisemblable.
Oui, oui.
Et ça, vous savez, ces expositions, on a parlé là surtout des expositions parisiennes, mais enfin dans l'ensemble des villes qui ont tenu des expositions universelles, les expositions ont eu un impact énorme sur la transformation urbaine, sur les plans d'urbanisme, sur les percées, sur les flux, sur les transports.
Oui, et alors sur les
transports, ça a été absolument énorme.
C'est ça, il nous est resté beaucoup de gares.
Il nous est resté des gares. Orsay, les Invalides, et puis les autres ont été refaites, la gare de Lyon et la gare Saint-Lazare, donc c'est quand même très important. Le métro, il était en gestation depuis longtemps, mais enfin c'est quand même la perspective de l'exposition qui a entraîné la décision.
Un peu comme les JO aussi, qui apportent beaucoup,
Les bateaux mouches, les grands magasins. En fait, toute la ville savait qu'il y avait, pendant 6 mois... Une densité de population, des visiteurs du monde entier.
Parce qu'il fallait les recevoir.
Donc c'était l'occasion tous les 11 ans de booster la construction d'un hôtel,
et
la construction des grands magasins.
Pays, en fait.
Bien sûr.
C'est vraiment l'essor du tourisme.
Et en 1937, ça a même été posé en termes de débat théorique, puisqu'on a hésité à monter l'exposition d'une manière décentralisée par rapport à Paris. Finalement, non, mais il y a quand même eu quelques petits pavillons qui se sont situés à l'extérieur, comme par exemple celui de Le Corbusier. Donc ça a entraîné quand même des débats et toute une réflexion sur la ville, sa périphérie, son extension, qui ont une influence énorme sur la suite.
Alors, si on veut en savoir davantage, donc il y a des conférences là, en partenariat avec le Comité d'histoire de la ville de Paris, le Petit Palais et justement le Bureau international des expositions. Il y a un cycle de conférences qui est programmé à l'auditorium du Petit Palais. Alors, le 30 janvier, Pascal Horry, les expositions universelles de Paris, donc le jeu des 8 fonctions. On a commencé à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire la foire, côté fête, le côté foire, le côté
Salon
architecture.
Des Beaux-Arts.
Voilà. Alors, Pascal Horry, quelle est sa légitimité?
Il est professeur d'histoire contemporaine à Paris 1 et spécialiste d'histoire culturelle et surtout spécialiste sur les expositions universelles.
Bon, donc effectivement. Alors là, c'est le 30 janvier. Ensuite, on a le 6 février, Bertrand Lemoine, l'architecture des expositions universelles. Alors là, vous pouvez peut-être intervenir. Vous allez intervenir.
Non, je n'irai pas intervenir.
Vous n'irez pas.
J'irai les écouter.
Oui, alors.
Bertrand Lemoine, c'est un spécialiste aussi. Il est à la fois polytechnicien, architecte, directeur d'école d'architecture, directeur de la revue Acier. Enfin bon. Et il est aussi spécialiste des expositions universelles.
On a le 13 février, Vicente González Losardatel, ou Teles, les enjeux des expositions universelles.
Alors, c'est le secrétaire général de ce fameux bureau des expositions universelles. Voilà. Et les autres sont des invités de la ville de Paris
qui viendront compléter la...
Le 27 février, on a Gilles Plou, le palais et pavillon d'exposition universelle. Donc, c'est l'industrie au service de l'art. Là c'est les différents pavillons dont on a parlé déjà.
Oui, c'est ça.
Il va évoquer...
Les pavillons et également le grand et le petit palais.
Le grand et le petit palais, effectivement. Donc, tout ce qui perdure, un peu, maintenant. Et puis, on a Denis Voronov, Information technique et compétition industrielle, le rôle des expositions universelles, 1851-1900. Là, il ne va pas jusqu'au bout, mais c'est les plus grandes, celles qui ont eu le plus de succès. Voilà. Et tout ça, c'est à l'auditorium du Petit Palais. Et c'est de 12h30 à 14h, et c'est accès libre dans la limite des places disponibles, bien entendu. Donc, pour en savoir davantage, on s'adresse à www.petitpalais.paris.fr. Mais si on va en savoir davantage, donc il y a votre exposition à voir jusqu'au
12 mars.
Jusqu'au 12 mars. Le prix d'entrée, c'est de...
Ah, c'est 8 euros.
C'est 8 euros, mais on peut visiter la conciergerie, je pense.
Ah, mais oui, bien sûr, on vous fait un package. le patrimoine, les expositions
d'accord. universelles. Conciergerie et Sainte-Chapelle.
Alors oui, on peut prendre un billet jumelé avec le billet de la Sainte-Chapelle.
Voilà.
Il y a une nocturne, on peut dire, le mardi
oui,
jusqu'à 20h.
Vous êtes ouvert le mardi?
Tous les mardis jusqu'à 20h.
Vous êtes ouvert le mardi? Contrairement à la plupart des musées.
Tous les jours de la semaine.
Toute l'année.
Pour cette exposition... Nous avons une ouverture en nocturne jusqu'à 20h.
Comme pour Picasso?
Absolument, absolument. Mais nous avons un catalogue beaucoup moins cher que celui de
Alors,
Picasso.
Alors vous avez effectivement un catalogue.
Qui est néanmoins très complet et très beau.
Alors Paris et ses expositions universelles, architecture, donc 1855-1937. Là, vous avez donc ces fameuses photos couleurs donc, qui viennent de chez Albert Kahn, du musée Albert Kahn.
Également de la médiathèque, de l'architecture et du patrimoine.
Mmh.
On a affaire à la fois à des photos de professionnels, de grands photographes réputés de l'époque, Petit, Nordin, mais il y a également des photos d'amateurs. C'est le cas pour tous les clichés de la médiathèque du fonds Vignac pour 1889. Mmh. Ça permet d'avoir un autre regard aussi sur les expositions.
Alors, donc ça accompagne l'exposition, mais on peut lire ce livre autrement. Et vous, alors, Sylvain?
Moi, j'organise une exposition avec...
Ah, vous avez d'abord un ouvrage qui a déjà paru il y a 12 ans, mais qui est toujours d'actualité par rapport à ces expositions.
Voilà.
Qui s'appelle Sur les traces des expositions universelles.
Voilà, aux éditions Parigram. Et puis, il va être traduit en chinois pour Shanghai 2010.
Ah, bah, donc, super, ça. Alors, vous avez les photos des expositions universelles.
Voilà.
Et vous avez les bâtiments
des
photos.
C'est un avant-après, c'est-à-dire c'est les bâtiments qu'on retrouve sur Paris et en proche banlieue. Et donc, c'est l'état actuel du bâtiment, un pavillon indien, un pavillon suédois, norvégien. Et puis, j'ai essayé de trouver les photos d'époque qui correspondent. De temps en temps, exactement, on peut faire un copier-coller. De temps en temps, on voit que ça a été modifié, ça a été démonté, remonté un peu différemment.
Et c'était un peu pas au même endroit, en plus.
Non, les bâtiments étaient dans Paris, dans l'enceinte des expos, et on les retrouve... À Saint-Cloud, on les retrouve à Courbevoie. Et à Saint-Cloud, il reste 4 vestiges. J'organise avec Emmanuel Lebaille une exposition le 23 mars au musée des Avelines.
À partir du 23 mars.
À partir du 23 mars, pour un mois et demi. Au musée des Avelines, une exposition. Et la différence de la conciergerie, c'est qu'on aura des objets. C'est-à-dire que ce n'est pas une expo photo, mais ça sera une exposition d'objets présentés en 1855, en 1867,
oui.
en 1900 et en 1937.
Avec des objets qui ont été inventés pour ces...
Des objets qui ont été, des inventions, des inventions qu'on a empruntées aux arts et métiers, des toiles qu'on a empruntées à Orsay, des collections particulières. On aura du mobilier russe pour 1867, parce qu'il reste une isba russe à Saint-Cloud. Donc on a un collectionneur qui nous prête du mobilier russe de cette époque-là, dont certaines pièces ont été exposées pendant les expos. Donc ça sera amusant de voir d'avoir de la trois dimensions, mais de la vraie.
Oui, donc une approche complètement différente de l'exposition actuelle.
Et
complémentaire si on s'intéresse.
Les photos de la conciergerie sont magnifiques.
Elles sont superbes, elles sont en grand format. Et il y a aussi des petits films que je trouve tout à fait charmants. C'est le défilé des gens dans la rue des Nations où on voit les gens habillés, toutes les provinces françaises qui défilent, toutes les étrangers qui défilent en costumes nationaux, on les voit plus souvent comme ça. Donc, ça, c'est très
suivant. Et puis, ce petit film amateur de 1937, qui a été fait par un japonais, un architecte japonais, mais anonyme, et qui l'a dédié aux Parisiens.
Et il a bien aimé alors.
Par testament. Et nous le présentons à la conférence.
Par testament. Alors ça, c'est vraiment gentil.
C'est beau.
Oui, oui, absolument. Ben, écoutez, on va terminer cette émission parce que je vois qu'il y a... On nous presse derrière. Voilà, donc c'était une exposition qui est consacrée aux expositions universelles à Paris. Donc je remercie mes invités, Isabelle Chalet-Bayage, Sylvie Clavel. Donc toutes les deux, vous êtes commissaires de cette exposition Paris et ses expositions universelles à la Conciergerie jusqu'au 12 mars. Et je remercie bien sûr Sylvain Agerge, auteur de « Sur les traces des expositions universelles chez Paris-Gramme » et futur commissaire de cette expo à Saint-Cloud à partir du mois de...
23 mars.
23 mars, d'accord, on ira vous voir, bien sûr. Merci à tous les trois. La semaine prochaine, on va partir pour un grand voyage. Voilà, on ne reste pas à Paris, on ira jusqu'à Rapa Nui. C'est une île qui est plus connue sous le nom d'île de Pâques, je ne sais pas si vous connaissez, et ça grâce à une exposition qui est présentée à l'espace Fondation EDF, rue Récamier, dans le 6e arrondissement, je crois. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, je remercie Enzo Dimeo, et puis merci de continuer à nous rester fidèles à l'écoute d'Aligre FM, et je vous rappelle que Rendez-vous Parisien, c'est tous les lundis matins de 10h à 11h sur Aligre FM 93.1, et que vous pouvez me retrouver également sur www.aligrefm.org et aussi sur http://rendezvousparisien.fr.nf.
Passer des cafards sur tes bars, je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air, et moi, de quoi j'ai l'air?